l'actu des oubliés. The people united will never be defeated. Saison 5. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Ce mois-ci, nous partons en Argentine, où le libertarien et néofasciste Milei gouverne depuis désormais 36 mois.
Hola, ven. Hola, ven.
La première année du règne de Milei a été marquée par des attaques en tous sens contre les acquis sociaux du peuple argentin. Les milieux militants, d'abord pris de court, se lancent éparpillés dans la bataille. En juin 2024, culminent les manifestations contre la Ley de Base, une série de mesures visant à déstructurer l'État, à privatiser ses entreprises, à vendre les ressources du pays à bas coût et à supprimer tout ce que l'État finance en matière sociale et écologique. Le pays est en pleine crise et la solution de Milei, couper à la tronçonneuse dans les dépenses publiques. Au prix d'alliances et de marchandages scandaleux, Milei, qui n'a pas la majorité au Parlement, parvient à faire passer une partie de sa loi alors que le Congrès est assiégé par la foule. Son régime est alors sauvé par les partis de la droite et du centre, et il enchaîne en passant la loi travail qui facilite les licenciements et réduit les indemnités. Or, un an plus tard, son objectif affiché de faire redémarrer le pays est un échec profond. La méthode violente, rapide et radicale a poussé l'Argentine dans un gouffre presque aussi profond que le désastre de 2001.
Nos están cagando desde el primer mes, en un parpadeo meten otra ley. De repente el presidente se hace rey, pero no la ven, no la ven. Veo jubilado, cagado de hambre, mientras los raperos juegan a la play. Celebridades brindando en hotel y gente acá se me se busca un alquiler, pero no la ven.
Avec un nouveau prêt au FMI que Milei vient d'obtenir après plusieurs refus, le pays est toujours plus endetté. L'inflation, si elle commence à baisser, est toujours supérieure à ce qu'elle était lorsqu'il est arrivé au pouvoir. La dévaluation du peso argentin s'établit désormais à 52%. Les seuls résultats visibles, c'est un taux de pauvreté passé de 45 à 57% en un an. La consommation est plus basse que jamais. Celle de pain, de lait et de viande a chuté drastiquement, signe que les gens s'alimentent moins. L'Argentine exporte d'énormes quantités de viande, mais la malnutrition atteint un seuil critique. Le démantèlement des services publics a profondément mis à mal le fonctionnement de la santé, de l'éducation et des transports. Aujourd'hui, le pays souffre d'un approvisionnement en médicaments hasardeux, d'une pénurie de gaz et d'une augmentation du coût de l'électricité de 700% à cause de la dérégulation des prix de l'énergie voulue par le président. La capitale, Buenos Aires, subit de gigantesques coupures d'électricité. Milei est tout simplement accusé d'organiser le chaos. Ce n'est pas un secret, le libertarien promeut la destruction de l'État par l'intérieur. L'inaction des pouvoirs publics est donc la norme face aux situations d'urgence que le pays connaît ces derniers temps. Lors de la tornade qui dévaste Bahia Blanca, lors de l'inondation de Concordia et des conditions climatiques dévastatrices dans la région de Buenos Aires, après la catastrophe ferroviaire de Palermo, l'État est absent, ne fournit ni vivres ni aides concrètes, ou très peu. Cet abandon résonne dans le domaine médical. Arrêt du remboursement de médicaments, fermeture de services, hôpitaux exsangues, limitation des possibilités concrètes d'avorter. L'accès aux soins se limite. Et pendant ce temps-là, le narcotrafic prolifère. La liste des victimes s'allonge et certaines villes telles que Rosario connaissent des fusillades quotidiennes.
Siente que ya falta el morfi, dólares en los bolsillos de Adorni. Los ares temblan en combis, calle cortada, gorras y corki. Facho con arma, nazis y zombies, caputo roba y cobra belly boni. Gas lacrimógeno, humo y un sol gris. Dale Gil si no te calza ni para un calcetín. Mientras Javi gobierna pa' Calperín. Para ellos sos un juego lote de ti. Lo mismo de siempre te fiesta y festín. En dos días te roban hasta la serrín y vas a servir de nada.
Ce n'est donc pas seulement que le mouvement social peine à faire face à toutes les attaques conjointement. Les Argentines et les Argentins sont tout simplement en lutte quotidienne pour leur survie. En juin 2024, quand la Ley de Base s'impose et que le mouvement social argentin doit avaler sa première défaite, une question se pose. Comment se réorganiser? Comment retrouver la perspective de faire avancer la société dans le bon sens lorsque tant de gens perdent leur emploi, que l'inflation atteint 200%, que les services publics sont en pleine collapse et que le président appelle à faire disparaître tout ce qui ressemble à une résistance antifasciste, socialiste, féministe ou écologiste? Car le président Milei voue une haine à tout ce qui constitue le tissu social. En mars dernier, le gouvernement s'en prend aux cantines populaires qui permettent de manger à bas prix un peu partout dans le pays. Ces cantines jouent un rôle déterminant à l'heure où la famine menace et sont garantes de liens sociaux. Le gouvernement fait rétention des vivres qui leur étaient destinés, sous prétexte que ces cantines ne sont pas correctement gérées. Alors qu'un jugement le contraint finalement à laisser les vivres circuler, la distribution est confiée à une entreprise privée. On suspecte celle-ci d'avoir usé de clientélisme, de favoritisme, et les coûts à l'arrivée sont bien supérieurs pour les cantines. Un épisode qui révèle pour certains la corruption au plus haut sommet de l'État.
Trabajadores con cara quemadas.
L'État n'est finalement là que pour réprimer les oppositions. Depuis le début de son mandat, la violence s'amplifie drastiquement. Dans les manifs, des infiltrés provoquent le chaos et la police intervient systématiquement avec balles de caoutchouc et gaz lacrymogène. La prison préventive a également fait son apparition et les organisations sociales les plus combatives font même parfois face à des accusations de terrorisme ou de velléité de coup d'État. Et pourtant, en un an, le peuple argentin retrouve de l'élan. L'un des premiers sursauts survient le 9 mai 2024 avec la marche de la résistance. Le slogan, une mémoire qui brille, une lutte qui ne s'éteint pas. L'appel, aujourd'hui, face à un gouvernement négationniste et apologiste de la dictature qui promeut des discours de haine, nie les identités et cherche à nous silencier, il est plus que nécessaire de continuer à résister. Une lutte qui ne s'est jamais éteinte ne s'éteindra jamais. C'est que ce gouvernement joue dangereusement avec l'héritage de la dictature. Une vice-présidente, fille et nièce de général impliquée dans la junte, des discours négationnistes sur le nombre de disparus dans la période, une baisse drastique des budgets pour les institutions de mémoire, les attaques sont nombreuses. De 76 à 83, l'Argentine connaît en effet une dictature sanglante. 30 000 personnes disparaissent, essentiellement militants et militantes de gauche. Certaines militantes, à peine mamans lors de leur enlèvement, se voient séparées de leur bébé. Ceux-ci sont adoptés par des pontes du régime. Nombre d'enfants argentins ont ainsi été élevés par les tortionnaires de leurs parents biologiques, sans bien sûr que la vérité ne leur soit révélée. C'est dans le but de retrouver leurs petits-enfants que les mères et les grands-mères de la place de Mai commencent à marcher en 1977. Grâce à elles, nombre de victimes sont retrouvées, nombre de crimes de la dictature sont révélés. Ces 20 dernières années, le pays effectue un profond travail de mémoire et d'éducation. Les maires de la place de Mai marchent encore alors que les médias pro-Milei écrivent que les militaires qui ont pris le pouvoir à l'époque agissaient sous la menace d'un putsch d'extrême gauche et qu'ils ont finalement sauvé le pays. Ce discours s'accompagne d'une définanciation de toutes les activités liées à la mémoire, à la vérité et à la justice. Le ministère des droits humains a perdu la moitié de ses fonctionnaires, tandis que le musée de la mémoire de Buenos Aires a vu son budget outrageusement amputé. Quant au centre culturel de la mémoire Haroldo Conti, il a fermé sans promesse de réouverture. C'est symboliquement dans les locaux des maires de la place de Mai que la marche de la résistance a été décidée, avec comme ambition de redonner du sens à la résistance du peuple argentin, de la replacer dans l'histoire. L'idée, dit l'un des coordinateurs, est d'offrir à la société une possibilité de se réorganiser autour d'un symbole majeur de la démocratie argentine, la mémoire, la vérité et la justice. Dans la rue, Nora Coltiñas, l'une des figures des maires de la place de Mai aujourd'hui décédée, est présentée partout comme un modèle de résilience. Le média AN Red écrit en mai 2024
« Cette grande figure des maires a dédié sa vie à soutenir la lutte des opprimés. Elle a été de toutes les résistances, sans faire le tri. Elle a joint l'acte à la parole et s'est transformée en un symbole de toutes les batailles pendant un demi-siècle, priorisant toujours l'unité dans la lutte contre l'ennemi principal. » Cette notion est particulièrement pertinente dans le contexte actuel.
À 22h le mercredi 8 mai, les centrales ouvrières s'arrêtent. Le 9 au matin n'ouvrent ni les écoles, ni les terminaux de bus, ni les services publics, ni les banques. Toute la journée, le pays vit au rythme des grèves, des rassemblements et des hommages aux victimes de la dictature.
La gente está enferma de verde, mucho nombrando Argentina, pero son poquitos quienes la defienden. A la primera de cambio la venden, cambia la cara, sigo viendo a Menem. Ya los fichan y esconderse no pueden antes de que pisen el 6 y se vuelen. Quiero que sepa que las balas vuelven. Me cago en randazos y olipichetos, se corrompió casi todo el congreso. Los mismos giles, los mismos puestos, los mismos gatos, el mismo cuento. 200 compañeros que andan repuestos, te llevan puesto, te llevan preso, te sacan todos los documentos, lloran la madre, suelten lamentos.
Dès lors se développe une nouvelle stratégie de lutte, depuis les syndicats révolutionnaires, les organisations de droits humains, les cantines populaires et les assemblées de quartier. Premier mot d'ordre, l'union. Ensuite, il s'agit de visibiliser les effets néfastes de la politique de Milei. À l'initiative de l'UTEP, syndicat du travail informel et de l'économie populaire, une coordination des quartiers populaires est mise sur pied. L'initiative est d'entretenir l'assembléisme et la culture de la discussion politique depuis la base, mais aussi de visibiliser les dégâts causés par Milei dans les couches les plus populaires et de favoriser l'émergence d'organes de décision. Enfin, l'accent est mis sur la lutte contre la répression, en particulier au moment des manifs contre la Ley de Base, au mois de juin. La société civile se manifeste pour venir en aide aux personnes arrêtées. Des campagnes de soutien sont organisées pour payer les avocats. Les organisations font un travail acharné de documentation sur les atteintes aux droits humains, afin d'attaquer l'État en justice, à l'échelle nationale et internationale. Ce travail acharné de celles et ceux qui refusent de lâcher coïncide avec l'émergence de deux grandes luttes qui vont traverser l'année. La première est celle de la sphère éducative. Dans les écoles, l'anxiété est omniprésente. Budget et salaires sont insuffisamment revalorisés face à l'inflation. Et puis la loi contre l'endoctrinement vient à imposer un contrôle sur l'enseignement, en particulier pour invisibiliser l'existence de l'homosexualité et de la transidentité. Car le gouvernement est lié à l'église évangélique, à tel point que la commission des sciences à l'Assemblée est un temps dirigée par une députée convaincue que la Terre est plate. Dans les facs, la colère gronde également. Milei refuse d'augmenter les budgets universitaires malgré l'inflation, ce qui équivaut à une contraction de près de 70% des fonds disponibles. Déjà exsangues, les universités font parfois cours dans le noir une fois la nuit tombée, comme la fac de médecine de la capitale. Les profs touchent en moyenne 127 000 pesos par mois, soit 137 euros. Il y a déjà eu, le 23 avril 2024, la marche pour la défense de l'éducation publique. 800 000 personnes à Buenos Aires, un record depuis plusieurs décennies. C'est que l'éducation, et plus encore l'université, gratuite en Argentine, sont largement perçues comme un acquis historique et un bien commun. Pour acquérir le soutien populaire, Milei prétend que l'université ne profite qu'aux riches, mais c'est un mensonge. 48% des étudiants sont la première génération de leur famille à pouvoir accéder à l'université, une proportion qui monte à 80% dans certaines facs. S'attaquer à l'enseignement supérieur, c'est s'attaquer à l'ascension sociale, à l'espoir d'une vie meilleure pour ses enfants. Une étudiante clame
« Ils nous enlèvent la possibilité de rêver. Pour beaucoup, le fait que l'université soit publique est la seule façon d'étudier. » Cela nous prive de notre avenir et nous n'allons pas le laisser passer aussi facilement.
Mais c'est en octobre que la lutte étudiante est la plus virulente. La résistance reprend à la faveur d'un veto présidentiel contre une loi présentée au Parlement qui visait à augmenter les budgets universitaires. Le 2 octobre, 300 000 personnes se rassemblent à Buenos Aires. Quelques jours plus tard, les premières universités commencent à être occupées et ça fait tache d'huile très vite à Córdoba, Mendoza, Jujuy et Rosario. Le lendemain du veto, la grève du personnel universitaire vide les salles de classe et emplit les halls où se déroulent des assemblées massives. Au 10 octobre, 51 facs sont mobilisées et 35 sont déjà occupées. Une semaine plus tard, le chiffre monte à 81 campus. À Matanzas, la fermeture de la faculté est décrétée par le recteur. Alors qu'étudiantes et étudiants se rassemblent dans la rue, y elles sont attaquées par la police. Décision est alors prise de forcer les entrées et de se réfugier dans la fac pour tenir une assemblée. L'université est finalement occupée pour la première fois de son histoire. À Buenos Aires, l'université de droit est dominée par un syndicat centriste. Celui-ci propose une réunion d'information sans prise de parole ni vote. Mais la foule exige une véritable assemblée populaire, et là encore, on vote le blocage. Sur les parvis des universités, dans les avenues, émergent alors des cours publics. Dans les marches, on chante « Dites-le à la perruque de Milei pour qu'il le voie clairement. Le peuple est déter, il lutte pour l'éducation. » Durant ces quelques semaines, le mouvement étudiant crée des ponts avec le monde du travail, notamment lors des grèves dans le secteur aéronautique. Il apporte également son soutien à l'une des grandes victoires de l'année, celle de l'hôpital Laura Bonaparte. Cet institut hospitalier situé dans les quartiers populaires de Buenos Aires est le seul centre de santé publique consacré à la santé mentale et au traitement des addictions dans le pays. Il fournit des soins hospitaliers classiques, ambulatoires et d'urgence, mais dispense aussi des formations et approvisionne gratuitement en médicaments les populations précarisées. Il constitue également une référence dans le traitement et l'accompagnement des traumatismes résultant des oppressions de genre. Début octobre, le ministre de la Santé déclare la fermeture de l'hôpital. Les 600 travailleuses du centre de santé prennent alors possession du bâtiment, organisant des veillées et des assemblées générales pour construire la lutte pour la défense de l'hôpital et de la santé publique. La solidarité qui se manifeste à l'égard du personnel défraie la chronique. Elle s'exprime depuis d'autres hôpitaux, y compris depuis l'autre bout du pays, d'associations, des assemblées de quartiers voisins, des patients et anciens patients, des retraités en lutte et du monde étudiant. Après une semaine d'occupation, le gouvernement recule. Depuis, l'hôpital est demeuré un lieu de lutte du monde soignant et au-delà. En avril, y était organisé le Resifest, un festival des résistances. Por traerme dramas y problemas, los tengo silenciados. Si corres cuando las papas queman, no sirve para estar a mi lado. No me atrae tu cadena ni tu billete llena, aunque estés reganado. Soy fuerte e independiente y no escucho a los haters, estoy trabajando. Entre-temps, un autre mouvement prend de l'ampleur, celui des retraités. Alors que la pension minimum est de 230 dollars en Argentine, les retraites ont fondu de l'équivalent de 30% face à l'inflation. 5 millions de retraités vivent désormais sous le seuil de pauvreté. En outre, la sécurité sociale argentine a déprogrammé le remboursement des médicaments. Le Congrès voit ainsi défiler les retraités et leur soutien chaque semaine. Puis une proposition de loi arrive à l'Assemblée pour augmenter les pensions de 8%. Or, Milei impose là aussi son veto présidentiel et fait annuler la mesure. La colère des retraités gonflait semaine après semaine, mais ce veto ulcère le pays. Le mercredi 28 août, le Congrès est cerné. Les images montrent des retraités gazés, battus par la police, chassés par les canons à eau. Pourtant, toutes les semaines et durant de nombreux mois, les rassemblements se poursuivent. Les retraités clament « Nous ne baissons pas les bras. Ce gouvernement prétend nous éliminer avec la faim et la répression, mais il va nous trouver dans les rues. » On réclame désormais non seulement la revalorisation et la restitution du remboursement des médicaments, mais l'abandon de toutes les mesures d'austérité et du pacte à venir avec le FMI. En février 2025, Carlos, retraité et supporter du club de football de Chacarita, est frappé par la police alors qu'il revêt le maillot de son équipe. Les images font le tour du pays et révoltent les supporters. La semaine suivante, venu du club de Chacarita, un groupe d'Inchas, comme on les appelle ici, rejoint les retraités en solidarité. Les supporters aussi sont violentés et gazés, générant une réponse immédiate. Dès le lendemain, les clubs de supporters de tout le pays tractent pour appeler à la mobilisation du mercredi suivant. Jour après jour, le pays constate la vague de solidarité qui naît entre les Inchas et les retraités. On appelle à la mise en place de tactiques d'autodéfense face à la répression. Les rues autour du Congrès se colorent d'une mosaïque de maillots de football. Les clubs de supporters se retrouvent et s'unissent au cri de « Il faut être vraiment nul pour frapper un retraité ». Dans la rue Entre Rios, des centaines font bloc pour tenter de forcer le barrage de la police. Celle-ci finit par attaquer à coups de gaz et de flashball, et cette fois, les pierres répondent. Des barricades sont installées sur toute l'avenue de Mai jusqu'à la Casa Rosada, la maison du gouvernement. Elles parviennent à empêcher les canons à eau d'avancer et à saboter la stratégie habituelle de la police, qui consistait à casser le cortège pour pouvoir procéder à des arrestations. Celui-ci parvient au contraire aux abords du palais présidentiel. Tout un symbole, puisque c'est de cette manière que le peuple argentin avait réussi à faire fuir en hélicoptère le président Fernando de la Rúa en 2001. La journée s'achève par des cacerolazos nocturnes. La ville résonne. Nous sommes le 12 mars 2015, et cette date reste comme celle de la mobilisation populaire grâce à une solidarité exprimée dans la rue. Pablo Solana écrit dans la revue Resistencias.
Ce 12 mars, la capacité de résistance a grandi, et le facteur peur sur lequel s'appuyait le gouvernement, lui, a reculé. Hier, nous avons vu de l'orgueil, la réaffirmation que nous faisons ce qui est juste et un sentiment de dignité. Aujourd'hui, tous les moyens de lutte sont nécessaires. La dénonciation des violations de droits humains, la fortalisation du lien communautaire, estudiantin de quartier, culturel et syndical, ainsi que la lutte institutionnelle. L'accumulation de toutes ces stratégies dépendra de ce genre de mobilisation dans la rue, et si sa force grandit, permettra de virer ces gens du pouvoir comme ce peuple sait le faire et comme il le fera une fois de plus.
Dans les jours qui suivent, la tension monte encore d'un cran. Le gouvernement mène une campagne de terreur en diffusant des messages de fermeté et des menaces à l'égard des groupes de supporters via les haut-parleurs des gares. Un avis public circule offrant 10 millions de pesos, soit près de 10 000 dollars, pour qui partagerait une information permettant d'identifier les responsables de la violence en manif. Le 19 mars, la foule déferle encore plus nombreuse pour entonner « Nous sommes tous des retraités, ce n'est qu'une question de temps ». On peut lire sur une pancarte « Les cannes n'ont pas peur des matraques ». Et cette fois sont venues des travailleuses de l'aéronautique, le secteur des télécommunications, les étudiants et étudiantes et les assemblées de quartier. Certains syndicats majoritaires ont même décidé d'appeler à rejoindre la lutte des retraités. Lo primero es un buen corazón, hacer negocios aprende. El que no tiene enfoque y visión, del camino se pierde. Con el pecho, con el corazón, es normal si no te entienden. Los resultados dependen de vos, la calle no es como te pinta la tele. Necesitas lixi de amor, adicto a mi acto, a mi olor. X, el tamaño del short, empecé de chica y ya me hice mayor. Saqué la envidia de mi alrededor, digna porque no pido por favor. Si no me gusta me voy, ahorra tu opinión, no tengo jefe ni patrón.
Partout, la résistance des retraités est célébrée pour sa capacité à unir derrière elle tout un pays. Miguel Mazzeo, interviewé par l'École Populaire Permanente, rend hommage à cette forme de lutte intergénérationnelle qui permet de faire le pont entre les différentes époques de l'Argentine, de comprendre l'histoire du pays crise après crise et de partager les outils qui ont permis les victoires passées. Car pour tenter de trouver les stratégies qui permettront de battre Milei, il convient aussi de comprendre comment il a pu arriver au pouvoir. Pour Miguel Mazzeo, Milei n'est pas la cause mais la conséquence d'un changement profond dans la société argentine. La crise des projets progressistes, ajoutée à la déception qui entoure les politiques libérales classiques, sont entrées en collision avec la transformation de la vision du monde. Et ce n'est aucunement un hasard si Milei se veut très lié aux GAFAM. Lors de ses jours aux États-Unis, il s'affiche en compagnie de Musk, Pichai, Altman ou Zuckerberg et cherche à créer en Argentine une Silicon Valley au service de l'IA. Son projet, à terme, remodeler l'État grâce à l'intelligence artificielle. Toujours est-il que l'extrême droite occupe désormais une partie du champ du nouveau, du disruptif. Matteo ajoute que la gauche et les espaces culturels traditionnels apparaissent souvent comme dépassés, vieillis, souvent enfermés dans des logiques institutionnelles auxquelles ils ont souscrit un temps et qui se retournent désormais contre eux. Le résultat est un manque criant d'imagination et de propositions claires face au désastre annoncé du capitalisme. Celui-ci, en pleine crise structurelle, avance désormais sans limite ni régulation et détruit le territoire, les cultures et les formes de vie. Le penseur argentin dit notamment.
Au niveau mondial, le capital est dans une crise profonde, probablement la plus profonde qu'il n'a jamais connue. Et cette crise affecte l'économie, mais aussi les systèmes politiques. Face à cette crise, la réponse du capital est d'approfondir les causes mêmes de cette crise. Et là, je veux parler d'extractivisme. L'extractivisme actuel, c'est ça, vouloir solutionner la crise profonde en perpétuant les logiques qui ont provoqué la crise. L'horizon ne peut être que la catastrophe, écologique, politique, économique et culturelle.
L'irruption de ce post-fascisme pseudo-novateur profite à la fois de l'effet paillette des technologies nouvelles, mais elle sert également cette économie, en permettant de relancer violemment l'industrie extractiviste. Drill baby drill, creuse bébé creuse, est l'un des slogans phares de Trump. Avant lui, Bolsonaro avait signé des textes visant à saccager l'Amazonie brésilienne, et Milei marche dans leurs bottes. En ce sens, il a fait voter « El régimen de incentivos a las grandes inversiones », ou RIGI. Celui-ci crée un système fiscal inexistant dans le reste du monde, fait sur mesure pour les entreprises extractivistes. Il leur permet notamment de passer outre un certain nombre de taxes et de conversions en les autorisant à investir avec leurs propres devises. Le territoire octroyé à la multinationale devient presque détaché financièrement de l'État argentin, qui abandonne d'autant les apports normalement perçus pour l'exploitation des ressources sur son sol. En outre, les investisseurs obtiendront plus facilement des concessions avec une garantie de conditions fixes durant 30 ans. Leurs impôts seront réduits et ils pourront contourner plus facilement les obligations de consultation publique et les normes environnementales. Miguel Matteo conclut en affirmant que face au manque d'imaginaire politique de la gauche traditionnelle, le rôle du transféminisme et des dissidences de genre pourrait être majeur. Ainsi, il s'agirait du secteur qui en Argentine soutient les propositions politiques les plus claires, articulées et avec une potentialité de transformation. Selon lui, l'objectif à défendre est celui de la communauté auto-organisée, un espace qui permet de recomposer les liens, de récupérer le corps comme outil de résistance et de construire, depuis la base, une alternative au collapse institutionnel et culturel. Il affirme
« On l'a vu en février, le mouvement des dissidences est celui qui est le plus à même de mobiliser. Les syndicats n'ont plus autant de capacité de mobilisation que les mouvements féministes. Et c'est aussi de ce mouvement que surgissent les propositions les plus claires. » Des propositions qui, en outre, ne font pas tout reposer sur des perspectives électorales. Les élections passent au second plan, et ce qui est mis en avant, ce sont les corps en action dans la rue. Ce n'est pas un hasard si cette marche est née de la volonté d'émancipation, de libération, et qu'elle a été accompagnée par un processus de démocratie horizontale, avec des revendications qui recoupent un ensemble d'idées pour une société nouvelle.
Le 1er février s'est en effet tenue une grande marche de la fierté antifasciste, antiraciste et LGBTQI+. Des centaines de milliers de personnes ont marché à Buenos Aires, près d'1,5 million en tout dans 130 villes argentines et jusqu'à Paris, Londres ou Mexico en solidarité. La marche fait suite aux déclarations transphobes du président au congrès de Davos, où il assimilait les personnes LGBTQI+, à des pédophiles. 48 heures plus tard, une assemblée autoconvoquée via les réseaux réunit 5000 personnes, durant laquelle il est décidé collectivement de mettre sur pied une marche des fiertés. L'appel se concentre sur la défense des droits des personnes trans, durement attaquées. Mais se solidarise aussi avec les personnes en migration, dénonce la précarisation et la mise en place d'une société exclusive. Victoria Freire confie à El Grito del Sur.
C'est un mouvement revitalisant qui montre notre présence dans la rue. Il y a une capacité d'agir, de livrer bataille et de le faire avec fierté, de ne pas avoir peur, de générer une espérance. Et il faut continuer à le faire vivre.
Un mois plus tard, le 8 mars argentin prend une forte teneur sociale et fédératrice. Les transféministes intersectionnelles affirment d'abord que les femmes, les dissidences sexuelles et les personnes racisées sont celles qui souffrent le plus de la précarisation de la vie. Elles analysent que l'austérité n'a pas simplement un objectif économique, mais celui de mettre l'État au service de la concentration du capital entre les mains de quelques-uns et d'abandonner son rôle au service du bien-être du peuple. L'accent est placé sur la défense des droits de toutes et tous et sur la nécessité de s'auto-organiser de manière inclusive. Les hommes cis sont ouvertement invités à rejoindre la marche, dont le mot d'ordre s'écrit partout, contre le fascisme, le racisme, le patriarcat et le capitalisme. Le mouvement Ni Una Menos affirme. Voilà des années que la grève internationale et transféministe se construit et s'amplifie, devenant chaque fois plurinationale, transversale et combative. Aujourd'hui, c'est notre tour de faire face à l'extrême droite qui gouverne avec la faim, à coups de pillage et de cruauté. 800 000 personnes défilent à Buenos Aires, opposant au faux discours de Milei la rage joyeuse et le bonheur d'être ensemble. Sur une pancarte, on peut lire « Sans un moratoire sur les retraites, 9 femmes sur 10 ne pourront pas prendre leur retraite, ni toi, ni moi, ni ta mère ». Une autre proclame « Avorte de ton fasciste intérieur ». Sandra Chavez, membre d'un collectif d'afro-descendantes, explique à El Grito del Sur.
C'est important que la marche soit antiraciste, car celui-ci est à la base de ce colonialisme que nous n'avons toujours pas dépassé. Nos identités afro-descendantes et celles des camarades indigènes sont totalement invisibilisées. Elles ont été historiquement niées et effacées, et pourtant, nous existons. L'État est construit sur le racisme et le fascisme, et ce gouvernement génère un génocide de la faim. Car tandis que la blanchité reste au pouvoir, nos peuples meurent de faim.
C'est l'occasion de rappeler que l'organisation collective et la solidarité demeurent les meilleures armes. Ainsi, de nombreuses marches se terminent par des collectes alimentaires destinées aux cantines populaires que Milei voudrait voir disparaître. Monica Macha, qui porte une pancarte « Nous sommes le feu et nous brillons », conclut.
De par la logique du féminisme argentin, née dans les rencontres plurinationales de femmes et dissidences, il y a une horizontalité intrinsèque. C'est peut-être ce que nous avons à apprendre. Avoir des formes d'organisation différentes permet de penser autrement la politique. En ce sens, je crois que c'est non seulement novateur, mais aussi plus transversal.
À ce 8 mars particulièrement inclusif, succèdent donc les journées du 12 et du 19 mars avec les retraités. Et puis, début avril, ces mêmes retraités appellent à une grève générale depuis la base. Face à l'enthousiasme, les bases des syndicats majoritaires parviennent à forcer leur direction à signer l'appel. Dès le mercredi 9 avril, les rues se remplissent pour accompagner le rendez-vous hebdomadaire des retraités. Les transports s'arrêtent dans l'après-midi, et le lendemain, les avions restent cloués au sol. Les écoles restent fermées jusqu'au vendredi. Le succès est impressionnant. La perte sèche pour le patronat argentin est estimée à 170 millions d'euros en une seule journée. Certaines villes affichaient 95, voire même 100% de participation à la grève dans l'éducation. Une nouvelle fois, l'unité du peuple argentin se reconstruit, peu à peu. Et c'est par la base, par les assemblées de quartier, par la solidarité au quotidien et par l'inclusivité, que la résilience nourrit l'avenir. Y me dijiste que no podía. Me dijiste que pa' esto no servía. Lo veo confundido y es que no la cachan. Que ahora el hip hop también es de la guacha. Y me dijiste que no podía. Me dijiste que pa' esto no servía. Lo veo confundido y es que no la cachan. Que ahora el hip hop también es de la guacha. Que piensan que se nos cae la bombacha. Por decir que tienen auto y mueven la droga en masa. La piba ya notamos en tu video como adorno. Con el abad de la guacha yo ya me conformo. Yo tengo una copla, nadie me la va a quitar. Me sobran los varios patas, cosa grita. Lo vivo todos los días, lo vivo toda hora. Tienen tanto miedo de perder su corona. Y no, no me calmo nada. Pasa que no sale tener la boca cerrada. Pañuelo verde, la muñeca ardiente, la garganta. Gritando por aquella que ya no puede encontrar. C'était le 11e épisode de l'Actu des Oubliés. Merci de nous avoir écoutés. Au doublage, Marilou, et en termes de musique, vous avez écouté No La Ben de Willy Bronca, Silenciadas de Craylus et Watchas de Shitstem. Retrouvez toutes les sources de cet épisode sur notre blog L'Actu des Oubliés, et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Representa la voz de cada piba que alza la voz. Viene un machito y la chita, amiga, hermana, compañera de lucha. Saca esos versos que acá la guacha te escucha. Si soy la única piba en medio de un evento, gritaré más fuerte de ello, no tengo miedo. Vos sos piba y hace rap, como es la cosa. Yo soy piba y hago rap y te tiro toda la posta. Tanto trapper me gustaría que se calle. No sabes con quién te metes, varón, no me diga que me falta calle. Si ustedes salen sin ese miedo a no volver. No, no me des la mano si me denigras en cada una de tus letras. Y no te hagas el aliado si tus videos son puro culo y teta. Ni tuya, ni chuta, ninguna de esas cosas. Valiente en la garganta y filosa las estrofas. Y filosa las estrofas, sí. Y me dijiste que no podía. Me dijiste que pa' esto no servía. Me dijiste que era débil para esto. Y ahora cuántos mueren por tener mi puesto. Y me dijiste que no podía. Me dijiste que pa' esto no servía. Lo veo confundido y es que no la cachan. Que ahora el hip hop también es de las guachas. Sí, también es de las guachas. Y como dice, ah. Dice lo que dice Shitstem.